sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Angèle et les jeunesses libertaires. Réfugié espagnol durant la guerre civile, Angèle n'a que 10 ans quand il arrive en France, avec sa sœur et son petit frère. Au camp d'Argelès-sur-Mer, il est séparé de force. Il est envoyé dans une colonie pour enfants, à Belvès, en Dordogne. Grâce à son obstination, il finit par retrouver sa sœur et son petit frère placés dans une autre colonie. Peu de temps après, son père les retrouve. Cependant, la Seconde Guerre mondiale dissout les différentes structures qui les accueillaient, les réservant aux Français venus de la zone occupée. Séparé de nouveau de sa famille, Angèle est exploité comme garçon de ferme dans l'Ain. La fin de la Seconde Guerre mondiale approche, l'espoir d'une nouvelle vie renaît.
En novembre 1944, papa vient me chercher. Je pars avec lui à Saint-Fons, à côté de Lyon. Monsieur Dorothy, mari de la marraine de guerre de mon père, m'a trouvé un travail au garage où il fait réparer sa voiture. Le chef d'atelier est un réfugié espagnol. Il me prend avec lui. Je suis son apprenti officiel. Entre études et travail, j'occupe mon temps à donner des cours à d'autres jeunes réfugiés espagnols. Et aussi, je m'engage au sein des jeunesses libertaires. Je milite dans une ambiance de paix et de solidarité. Nous rêvons de devenir le ruisseau par lequel se transmettraient nos idéaux fraternels.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nombreux exilés espagnols espèrent la chute de Franco et leur retour en Espagne. La chute du Caudillo semble inévitable suite à celle d'Hitler et de Mussolini. Alors même que le régime de Franco a soutenu militairement et financièrement les forces de l'Axe, en reconnaissance de son aide pendant la guerre d'Espagne, officiellement, le pays est resté non belligérant durant la Seconde Guerre mondiale. Ceci a contribué, tout comme les différents intérêts économiques des pays alliés, ainsi que le début de la guerre froide, après un isolement momentané, à une normalisation des relations avec le régime. Les anarchistes, qui constatent l'hésitation et l'inaction des pays alliés pour destituer Franco, s'engagent dans une lutte révolutionnaire.
Le Mouvement pour la Libération de l'Espagne et la CNT, Confédération Nationale du Travail, de même que le PCE, Parti Communiste Espagnol, envoient des militants en Espagne pour y consolider la lutte clandestine. Ils prêtent tout appui aux actions de force qui peuvent miner les assises du régime, attentats, sabotages, coups de main, et à ce qui, à un moment donné, pourrait provoquer un état de panique tel que la chute de Franco serait accélérée.
Extrait de l'exil des républicains espagnols en France, de Geneviève Dreyfus-Armand. Angèle, porté par ses idéaux et ses espoirs de révolution, part en Espagne. Il veut prendre part, de l'intérieur, à la lutte contre le régime. Période durant laquelle Franco prépare la loi de succession, le transfert de la dictature vers la monarchie, afin de légaliser le pouvoir en place aux yeux des puissances étrangères.
Eh bien, en 1946, en Espagne, ils organisaient le transfert de la dictature changée en monarchie. sans changer le dictateur. C'était une prouesse quand même. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, était considéré comme une dictature, ce qu'il était. Donc, étant une dictature, elle ne pouvait pas rentrer à l'ONU, ni à l'UNESCO, ni nulle part d'organisme international. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire la succession, on va changer, et que ça devienne une monarchie. Alors, ils ont commencé à préparer tout ça. Donc, en 1946, je me suis engagé avec un autre, aller à Barcelone, trouver un groupe de la CNT, Confédération Nationale du Travail, et semer un peu la pagaille pour que le vote ne soit pas favorable. Je suis passé avec un groupe de maquis. Et quand on s'est arrivé à Girona, bien, le groupe de maquis est parti d'un côté, et moi, j'ai pris le train pour aller à Barcelone. Alors comme à l'époque, il fallait le sous-conduit, pour voyager et tout ça. Moi, je n'avais pas de sous-conduit. Alors, quand je voyais la police d'un côté, je sautais à un autre wagon. Mais il y a un gars là, un voyageur, qui s'est mouchardé à la police. Ça fait que bon, la police m'a attrapé, quoi. Et c'était la première fois que je tombais dans les mains de la police. Alors, on m'a posé des questions, etc. J'ai répondu comme je pouvais, je voulais. Et puis, on m'a conduit. Quand on travaille à Barcelone, à la Jefatura Supérieure de Policia de la Via Laietana. Et là, eh bien, j'avais commis une erreur parce qu'il y a quelqu'un de Lyon qui m'avait donné des carnets de la CNT pour les laisser à Perpignan. Et je les avais donné, les carnets. Mais j'avais un petit papier qui disait 10 carnets de la CNT. C'est tout ce que j'avais dans la petite poche. J'ai toujours une petite poche, mais là, je suis mieux sur moi. Alors quand j'arrive là-bas, on me fouille et tout, et on me trouve ce petit papier. Moi qui faisais des idiots, que je voulais revenir à Barcelone parce que j'avais la famille, là. Et voilà, et là j'ai eu mon premier baptême de coup. Deux policiers me descendent dans la cave. Il y avait des cages, parce que c'était des cages, j'avais des barreaux. Ils me descendent parce que je ne pouvais pas marcher. Et ils me jettent dans une de ces cages. Et justement, le groupe du Carmelo, que je devais rencontrer, ils étaient en prison aussi. Ils étaient là-bas. Ils étaient faits prisonniers. Et après, bon, je suis resté 20 et quelques jours là-bas dedans. Je me suis arrangé pour quelqu'un qui sortait, qu'il allait voir une de mes tantes. Ma tante, elle a fait des démarches, etc. Et j'ai pu sortir. Mais il fallait que tous les dimanches, je me présente au commissariat pour signer que j'étais pas vadé, j'étais contrôlé, quoi. Alors, avec un autre, eh bien, on a décidé d'aider les femmes qui avaient des enfants dont leur mari était en prison. Je connaissais bien la mécanique des voitures, tout ça, j'étais un bon technicien. Là-bas, ben, malheureusement, il n'y avait pas de bon mécanicien, ni rien. Ils étaient tous fusillés ou en prison ou en exil. Donc, ceux qui restaient là-bas, c'était des magouilleurs. Donc, je suis rentré dans un atelier de mécanique d'automobile. Et puis, comme j'étais jeune, le gars, mais j'avais pas les 18 ans encore. Et bien, le gars, il me payait pas beaucoup, là. Mais moi, j'avais besoin de travailler et gagner un peu de pain. Et puis, un jour, il y a un riche de l'époque qui arrivait avec une Peugeot. Il arrive avec ça. On devait lui faire une réparation. Et le chef d'atelier qui avait là, eh bien, il n'arrivait pas à démonter. Le patron, lui, qui se croyait l'ingénieur plus important du monde, il fracasse aussi. Et il n'arrive pas à démonter tout ça. Et il y en a un qui lui dit, pourquoi vous ne demandez pas Angèle qui vient de France, là? Non, peut-être. Alors il me le demande, il dit, est-ce que tu saurais démonter? Je dis oui, mais avec un autre salaire. Alors, quel est mon salaire, si je le démonte? Et tu le démontes et on en parle. Je dis, non, maintenant, avant de démonter. Voilà, enfin bon, on s'est arrangé. Il m'a triplé ou quadruplé le salaire.
Grâce à son travail, Angel aide financièrement les familles qui subissent la répression de Franco. Cependant, Inquiété, il doit retourner rapidement en France. Il y retrouve son père, sa sœur et son frère. Sa vie semble alors stabilisée, toute tracée. Une vie meilleure semble s'annoncer pour lui et ses proches.
Et en revenant en France, ben, j'ai commencé à travailler à Saint-Fond. Et bon, c'était bien, mais j'étais chauffeur mécanicien. Et puis en plus, j'allais à l'école après. La NATO, l'OTAN, ils avaient ouvert des cours pour techniciens en moteur à réaction. C'est les moteurs qu'il y a actuellement pour les avions. À l'époque, c'était le commencement. Et là, de l'école industrielle, je suis passé à suivre des cours. Mais en travaillant, je travaillais, hein. 8 heures par jour, hein, je travaillais. Et après, je faisais mes cours, moi. Pour les examens, on était 300 et quelques, j'ai le numéro 5. C'était pas mal. Donc, je devais partir du côté de Belfort, je crois, je devais aller. Ma vie était déjà, c'était stabilisé, quoi, pratiquement. Et il y a un groupe de maquis, espagnols, que je connaissais, qui viennent à la maison, en 1949. Et là, j'avais 20 ans. J'avais une mission que je ne connaissais pas, moi, et je devais que conduire. Au début, ça m'embêtait parce que je ne savais pas quand est-ce qu'ils allaient m'appeler pour rentrer à l'école. Là. Mon père, il était réticent, il a déjà assez donné, enfin, etc. Mais enfin, ils sont revenus, et là, je me suis laissé prendre par le cœur. Je n'ai pas laissé que la raison décide. J'ai dit, bon, d'accord, c'était une affaire de 4 ou 5 jours. Bon, d'accord. Je suis parti avec eux en Espagne. Alors, ici à Toulouse, on nous a ajouté 5 de l'Aveyron qu'on ne connaissait pas. Le grand tort de tout, ça a été ça. Ils devaient aller acheter en Espagne pour faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors, on les a mis avec nous. Et, mais enfin, bon. Alors, ils sont partis 10. On traverse les Pyrénées. On va à Luchon. De Luchon jusqu'à Aïnsa. Jusqu'à Insa, à pied. On passe par l'hospice de France, de la neige jusqu'à la ceinture. Moi, je n'étais pas armé. J'avais dit, moi, je ne prends pas d'armes. Moi, j'ai aidé à transporter. On avait des sacs d'eau qui étaient lourds. Je ne vous dis pas. On n'était pas équipé pour faire de la montagne. Je ne vous dis pas. Enfin, on est passé. Et bon, on est arrivé en Espagne. Un véhicule qu'ils avaient repéré, eh bien, on ne pouvait pas s'en servir. Pas s'en servir, il était trop petit pour mettre tout le monde. Parce qu'ils avaient repéré ce véhicule pour ceux de Lyon, mais pas pour les autres. Donc ça fait qu'on a pris une camionnette de quelqu'un, d'un poissonnier. Donc ils sont partis avec la camionnette. Et puis après, bon, on a été vendus. Sur la route, on a été vendus. Mais enfin, nous sommes quand même arrivés à hauteur d'Alborje. Alborje, c'était un endroit où on devait aller. Il y avait quelqu'un qui travaillait à Renfe, à la CNSF, qui nous renseignait. Mais moi, je ne savais pas quelle était la mission. Hein. Il n'y avait que deux qui le savaient. Donc ces deux-là sont allés voir le gars-là. Et quand ils sont revenus, rejoindre le groupe, ils nous ont expliqué, bon, on a un problème qui est le suivant. Alors c'est là qu'ils nous ont dit que la mission était de faire sauter un train. Parce que chaque 15 jours comme ça, mais le conseil de ministres, au lieu de le faire à Madrid, mais se déplacer à Barcelone. Et c'était un train spécial. Il y avait Franco avec ses ministres, tout ça. Donc la mission était de faire sauter ce train. Le problème, c'est que cette fois-ci, je ne sais pas si quelqu'un les avait renseignés, cette fois-ci, ils avaient accroché des wagons à voyageurs. Alors le problème était le soir. Est-ce qu'on fait sauter le train? Il y a des voyageurs, il y a des gens innocents. Et nous, comme on n'est pas des criminels, on n'est pas des criminels. On ne peut pas. Seulement, on savait très bien que si on faisait pas sauter le train, on aurait des graves problèmes. Parce que notre solution, c'était faire sauter le train et partir. Tout de suite, pendant qu'il y a tout ce merdier, qu'on cherche tout ça, nous sommes déjà partis. Puisqu'on avait déjà le départ. Ils avaient tout préparé, quoi. Alors on a décidé de ne pas faire sauter le train. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas tuer des enfants, des femmes, des hommes innocents. Ça, c'est... on ne pouvait pas le faire, ça. Là, on n'a pas fait sauter la tête. Voilà. Et à partir de là, on a eu tous les problèmes. On s'est divisé en deux groupes. L'autre groupe, ils ont eu des problèmes. C'est les premiers qui ont été recherchés, c'était l'autre groupe. Parce qu'il y a quelqu'un qui les avait dénoncés déjà. S'ils ont eu un problème, il fallait qu'ils traversent l'Ebre. Mais il y en avait trois qui ne savaient pas nager. Donc il y en avait un, Ibanez, là. Lui, il savait très bien. Donc il a traversé l'Ebre pour aller chez des gens qui nous attendaient aussi, chercher une corde. Quand il a voulu revenir, eh bien, il y avait déjà la garde civile qui était par là-bas. Il y en a un qui, Cervera, il a eu la chance à ce moment-là qu'il avait besoin d'aller faire ses besoins. Il avait laissé sa mitraillette là-bas, puis il est allé dans des buissons là. Et les autres qui étaient là-bas, les trois qui restaient, eh bien c'est là que la garde civile a tiré dessus. Il les a tués. Il y en avait un qui avait 52 balles dans le corps. Donc Cervera, il s'est sauvé parce qu'il était caché comme ça, et l'autre parce qu'il était sur l'autre rive. Voilà. Nous, moi, comme j'avais déjà une certaine expérience, je leur avais dit à ceux de l'Aveyron, on va marcher, on va passer par ici, par-ci, et on va se cacher. C'est-à-dire qu'il faut qu'on marche la nuit. C'est la nuit qu'il faut qu'on marche. Et le jour, il faut qu'on se cache. Il faut qu'on trouve quelque chose. Alors, il y en avait un, Cap de Villa, et bien qu'il avait très mal aux pieds, et qu'il ne pouvait pas marcher. Alors moi, je lui avais dit, aux autres, je lui ai dit, on va lui donner une gourde, on va lui donner un peu à manger, ce que nous avons, et on le cache quelque part. Mais il ne peut pas venir avec nous. Si on veut se sauver, il faut qu'on marche. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain, c'est maintenant. Et il faut marcher très vite. Ah ben non, on ne va pas l'abandonner, il n'y avait pas question qu'on l'abandonne. Ils croyaient qu'ils le sauvaient et ils le traînaient avec eux. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas. On n'a plus de force. Donc, il a fallu se cacher tout de suite. Et c'est là qu'on est rentré dans la bergerie, dans une vieille bergerie. Avec la condition que l'autre, qui n'était pas fatigué, il avait mal aux pieds, mais il n'était pas fatigué, il n'avait pas marché. Mais c'est lui qui montait la garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi.
Nous ouvrons les yeux lentement, comme pour ne pas réveiller le silence. Chacun de nous a pointé sur lui un canon de fusil, environ 10 cm du front. Le silence est rompu par le bruyant cri féroce. Que personne ne bouge. Le chef du groupe de la garde civile ordonne que nous restons allongés. Pendant que, quelques-uns nous passent les menottes, bien serrées, d'autres ramassent ce qui reste de nos sacs à dos et de nos armes. Les coups commencent à tomber avec les crosses, les coups de pied et les coups de poing. Ils montent sur nous, ils sautent joyeusement sur nos corps, ils hurlent avec des cris sauvages. Mais qu'est-ce qui transforme ces hommes en bêtes? Quel pouvoir diabolique exerce le franquisme sur ces individus? Il y a quelques instants de trêve, ils sont fatigués de tant frapper et de cogner avec les crosses. Tandis que nous, ensanglantés, sans force pour tenir debout, nous ne sentons déjà plus la douleur.
On est passé par Caspé. De là, on a chargé dans une camionnette, bâchée. Et là, je me suis dit, mais là, ils vont tout tuer. Parce qu'à l'époque, il y avait le délit d'évasion, le délit de fuga. C'est-à-dire que quand ils voulaient tuer quelqu'un, qui avait les menottes, eh bien, ils laissaient qu'ils partent en courant avec les menottes. Et là, paf, ils te tiraient, ils te tuaient. Alors, quand on est sorti, on avait les menottes, bien sûr. Et moi, j'ai dit, mais ça y est, ils vont nous appliquer le délit d'évasion. Ça, c'est clair. Quoique, je vous dirais sincèrement qu'on le souhaitait. On était tellement mal, qu'on souhaitait qu'on nous tue. On appelait la mort. La mort, c'était la liberté pour nous.
CT, Angel et les jeunesses libertaires, sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore, soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.